da di da 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 da
de la paix. Il est 7 heures. Le journal du 7 heures. César Yao.
Bonjour à tous, les titres de ce vendredi 7 heures. La révision de la liste électorale pour 2025 est-elle possible? Le coordonnateur de la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire s'inquiète sur la question du parrainage qui n'est pas encore tranché. Et d'ailleurs, Francis Kassi recevra le président du parti pour l'intégration africaine, Jacob Mamadou Koulibaly, qui s'insurge contre le parrainage citoyen qu'impose la loi à quiconque veut être candidat à l'élection présidentielle de 2025, ce sera dans le cadre de l'invité de la rédaction. Réserves administratives à Bonire-Dougou dans le département de Dabakala, un avenir compromis pour les projets communautaires et les ventes illégales entravent le développement. Dans l'actualité internationale, est de la République démocratique du Congo, les chefs de la diplomatie se rencontrent pour le sommet de l'EAC et la SADC. L'objectif de cette première réunion est de permettre aux deux organisations régionales d'accorder leur violon pour rétablir et consolider la paix dans ce pays. Jean-Mélène Bitti sera des nôtres pour la revue des titres des journaux ivoiriens du jour. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Sur la révision de la liste électorale pour 2024 entre bientôt dans sa phase d'affichage de la liste provisoire, ouvrant ainsi la voie au contentieux avant la publication de la liste définitive. Pour 2025, des interrogations subsistent quant à une éventuelle révision par la commission électorale indépendante. Le coordonnateur de la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire a précisé que si les parrainages se basent sur la liste électorale, une révision pourrait être envisagée comme cela avait été le cas en 2020, Drissa Soulama.
On a terminé la révision de la liste électorale. Maintenant, nous sommes en attente effectivement de l'affichage qui va ouvrir le contentieux. Et puis après le contentieux, effectivement, la commission électorale indépendante va prendre en compte tous ces éléments du contentieux et puis publier, effectivement, bien entendu, une liste électorale définitive qui va nous servir à aller aux élections.
Si on tient compte de tout ce que vous avez dit, est-ce que en Côte d'Ivoire, on peut encore organiser cette année 2025, une révision de la liste électorale? Est-ce que c'est possible?
Ça, c'est une question à laquelle la commission électorale indépendants doivent pouvoir nous répondre parce que c'est eux qui sont les techniciens. Je pense qu'il y a un élément sur lequel on n'a pas encore statué, c'est la question du parrainage. Alors, on se pose la question, effectivement, est-ce que le parrainage doit se faire effectivement sur la liste électorale définitive ou c'est sur la liste électorale provisoire? Donc, c'est une question qui n'est pas tranchée. Si c'est sur une liste électorale provisoire, je pourrais dire qu'on peut faire une révision de la liste électorale. Si on se réfère à 2020, on a fait la révision de la liste électorale dans le mois de juin et on a organisé les élections dans le mois d'octobre, effectivement. Je crois que c'était appuyé sur la liste électorale provisoire pour pouvoir faire le parrainage.
Voilà, le coordonnateur de la cause, Elsi, Drissa Soulama, était en ligne avec Constant Maïlé. Puis Justin Koné-Katina, porte-parole du PPACI, a invité l'opposition ivoirienne à s'unir autour de la révision de la liste électorale. La question a été abordée au cours du 34e numéro de la tribune du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire qui a eu lieu hier jeudi au siège du parti dans la commune de Cocody. On fait le point avec Nelly Dali.
À 8 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, la question de la révision de la liste électorale revêt une importance capitale pour l'opposition, dont le PPACI. Son porte-parole, Justin Kone Katinan, que nous écoutons à ce sujet.
C'est l'article 6 du Code électoral qui dit de façon claire, la liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Alors que toute l'opposition demande une révision pour 2025, comme la loi le dit, le président de la CEI, M. Koulibaly Ibrahim Kuber, s'oppose à ce que la loi leur impose comme règle. En droit, lorsqu'il n'y a pas d'exception, l'exception ne se présume pas. Il n'y a aucun fondement juridique et il n'y a aucun fondement moral. La balle est dans le camp de l'opposition sur cette question. Il faut que nous nous unissions sur cette question pour faire front parce qu'elle est inacceptable.
Il a ensuite embrayé sur le bilan économique du RHDP, parti au pouvoir.
Lorsque le président Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, le PIB en 2000 est de 16,58 milliards de dollars. Au 31 décembre 2010, le PIB de la Côte d'Ivoire fait 34,94 milliards de dollars. Soit une progression de 110,75% en 10 ans. Eux, ils prennent le PIB à 34,94 milliards de dollars. Ils envoient 62,98 milliards de dollars. Soit une progression seulement sur les 10 ans de 80,85%.
Rendez-vous est pris pour samedi prochain à Marcoury au stade résidentiel pour la tournée du Kokoko du président Laurent Gbagbo, a annoncé le porte-parole du PPACI au terme de la conférence.
Présidentiel 2025, toujours, le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a lancé un programme ambitieux intitulé le Marathon de la Cohésion. Ce projet vise à renforcer l'unité et la solidarité sur l'ensemble du territoire national. Le coup d'envoi de cette première édition a été donné hier jeudi à la place Henri Conan Bédier de Dabou. On en parle avec Jean-Claude Mabéa.
Conformément à la mission confiée à son ministère par le gouvernement, la ministre de la Cohésion nationale, Miss Belmonde Dogo, a dévoilé le contenu du marathon de la cohésion avant de préciser les objectifs.
Les activités du marathon de la cohésion seront déployées dans 14 régions dites d'intérêt, le marathon de la cohésion. Et elle comprend l'atelier de renforcement des capacités des acteurs locaux, le diagnostic communautaire participatif, les prières interreligieuse et le clair de lune. Toutes ces activités ont pour objectif de renforcer les mécanismes de dialogue et de promouvoir l'éducation à la paix et à la tolérance et d'accompagner les initiatives locales.
Et de lancer cet appel aux Ivoiriens.
La tâche qui nous attend est immense mais exactante. Elle nécessite la volonté, l'engagement et surtout l'amour pour notre pays. Chacun de nous a un rôle important à jouer dans ce processus. Je vous invite donc à être des ambassadeurs pour la cohésion nationale.
Dans le combat pour le maintien et le renforcement de la paix, des partenaires au développement au nom desquels le programme des Nations Unies pour le développement a réitéré son soutien à la Côte d'Ivoire. Blerta, c'est là sa représentante résidente.
Le PNUD est aux côtés du gouvernement et du peuple de Côte d'Ivoire pour protéger, promouvoir et respecter le droit et la paix et la stabilité pour favoriser la cohésion sociale.
Que ce marathon de la cohésion contribue à des élections démocratiques et pacifiques en Côte d'Ivoire, a souhaité la ministre Miss Belmonde Dogo.
Direction région du Hambol, plus précisément à Bonire-Dogo, dans le département de Dabakala, alors que l'État a identifié des réserves administratives destinées à accueillir de futures infrastructures. Un problème majeur se pose, ces réserves sont morcelées et vendues, entravant ainsi les projets communautaires des autorités municipales. Les détails de cette situation et ses implications avec notre correspondant régional, Joseph Assalé.
Malgré les difficultés financières rencontrées, le conseil municipal de Bonire-Dougou, commune située dans le département de Dabakala, a réussi à réaliser d'importants équipements communautaires de base au profit des populations au titre de l'année 2024. Plusieurs autres projets de développement sont prévus en vue d'améliorer les conditions de vie des populations, mais ces initiatives se heurtent au lotissement anarchique qui cause de lourds préjudices à la commune. Pemina Olivier Ouattara, le maire.
Vraiment un problème sérieux. Pour Bonire, toute la commune n'a plus de réserve. Il faut aller dans les villages environnants. Vous comprenez que c'est une difficulté. Toutes mes réserves sont morcelées. C'est une évasion financière énorme parce que les lotissements ont été faits, vendus. Malheureusement, les recettes ne sont pas allées là où il faut. entre 400 et 600 millions si ça avait été reversé au trésor public.
En vue d'insuffler une nouvelle dynamique de développement à la commune de Boniré-Dougou, les autorités municipales viennent de lancer deux outils importants. Il s'agit de l'application E-Commune et le plan stratégique de développement local. Kouadio Mélène du Comité national de télédétection et d'information géographique.
Le E-Commune répond à la politique d'identification des contribuables, la mise en valeur des différents lots. Donc, au niveau du PSDL, c'est de permettre à la mairie de pouvoir planifier tout.
Le maire de Boniré-Dougou invite les populations à plus de civisme fiscal en vue de booster le financement des projets sociaux. Joseph Assalé, Boniré-Dougou, Radio de la Paix.
Voilà, c'était donc le reportage de Joseph Assalé. Retour à Abidjan où s'est déroulée les 4 et 5 février dernier une conférence sur la santé des plantes en Afrique centrale et de l'Ouest. Des acteurs clés tels que la FAO, l'Union européenne et l'Union africaine y sont pour discuter effectivement du thème, créer des synergies pour renforcer la santé des plantes dans l'approche One Health. Cette initiative vise à intégrer la santé des plantes dans les stratégies de santé globale. Là-dessus, écoutons le secrétaire exécutif du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, Dr Abdoulaye Mohamadou.
Cette initiative de créer des synergies dans le cadre des efforts dans le cadre de la lutte contre les ennemis des cultures pour évidemment intégrer la santé des plantes dans le concept de santé unique qui pour l'instant reste le parent pauvre. Le CILS, Comité Permanent Inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, apporte dans le cadre de ce consortium son expérience mais également son expertise dans le domaine notamment de la lutte contre les pesticides. Nous avons mis en place un centre sahélien de pesticides qui est en train de devenir un centre ouest-africain de lutte contre l'homologation des pesticides, également mis en place un dispositif d'alerte et de prévention dans le cadre de l'accompagnement des États du CILS, 113 des États du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons également des programmes de recherche à Niamey et à Bamako et nous formons également les cadres techniciens dans le cadre de la lutte contre les ennemis des cultures. Donc cette réunion vient à point nommé puisque nous savons très bien que la santé des plantes est un enjeu également de santé publique pour le monde entier, également pour notre région. Et il était tout à fait indiqué que nous organisions cette réunion pour profiter des compétences et des expertises de toutes les organisations qui luttent contre les ennemis des cultures dans la région depuis déjà plusieurs années.
Voilà, c'était Dr Abdoulaye Mohamadou, secrétaire exécutif du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Dans l'actualité internationale, ce vendredi s'ouvre à Dar es Salaam en Tanzanie un sommet conjoint entre l'EAC et la SADC sur la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les organisations régionales d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe avaient jusque-là mené des processus de paix parallèles. L'objectif de ces dernières, sinon de ces premières réunions, est de permettre aux deux organisations régionales d'accorder leur violon. Autre point de tension à aborder, le rôle de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, puisqu'une force qualifiée d'offensive par Kigali qui demande son retrait ainsi que celui des troupes burundaises. La SADC avait de son côté exprimé la semaine dernière son inquiétude face à de récentes attaques du M23. Si Kigali rejette les accusations de soutien aux rebelles, le gouvernement rwandais parle de mesures défensives à la frontière. Voilà tout de suite la revue des titres des journaux ivoiriens du jour avec Jean-Mélène Bitti. Bonjour Jean-Mélène.
Bonjour César, bonjour à tous. Ce vendredi, les journaux mettent en lumière les mesures de sécurisation de l'espace aérien. Le matin titre, Tenebiraïma Ouattara annonce des moyens puissants de défense et de sécurisation en vue de la présidentielle de 2025. Dans le même registre, Fraternité Matin souligne que les armées ivoiriennes bénéficieront de nouveaux matériels. L'Inter rapporte que Tenebiraïma Ouattara a délivré un message fort aux forces armées et à la gendarmerie en insistant sur la nécessité dossiers de sécurisation pour octobre 2025. Les nouvelles tarifications des postes à péage d'Atingué et de Saint-Grobo sont également mises en avant. Le rassemblement note les nouveaux tarifs, tandis que Fraternité Matin évoque une baisse de tarifs pour ces péages. En parallèle, le mandat rapporte que le gouvernement a décidé de réduire les frais de péage sur ces axes. En politique, Kone Katina a tenu une conférence de presse hier jeudi où il a vivement critiqué la CEI. Le temps fait état de son intervention sur la gestion du régime Ouattara, soulignant comment la dette cause des souffrances aux Ivoiriens. Le canard déchaîné aborde les accusations de collusion d'intérêts entre la CEI et le RHDP. La voix originale, quant à lui, relève que Katina a déclaré que Laurent Gbagbo est le meilleur remède contre les problèmes d'hier, tandis que le nouveau réveil pointe le refus des QBR d'organiser la RLE en 2025. La situation est également tendue au sein du PPACI où le procès de Damana Picasse et Kouah Justin est en cours. Le rassemblement annonce que Picasse risque 20 ans de prison. Le temps lui mentionne que le procureur requiert également cette peine contre Kouah Justin. Kone Katina, à la une de Soir Info, invite les juges à ne pas politiser le débat. Du côté du RHDP, la mobilisation pour la présidentielle de 2025 est en cours. Cissé Bakongo, secrétaire exécutif du parti, a échangé avec les sénateurs du RHDP, comme le rapporte Fraternité Matin et l'Expression. Bakongo a incité les sénateurs à œuvrer pour le plébiscite du président Ouattara en 2025. Enfin, l'affaire de la révocation d'Antoine Adou par QBR continue d'alimenter les débats. L'héritage mentionne les raisons de cette révocation, alors que le Bélier met en lumière les faits que l'on souhaite cacher aux Ivoiriens. L'Avenir, de son côté, fait des révélations sur le départ du conseiller du président de la CEI. Voici en substance l'essentiel de l'actualité vue par vos journaux de ce jour. Merci à vos journaux et bonne lecture.
Voilà l'instant, la revue des titres des journaux ivoiriens du jour avec Jean-Mélène Bitti qui sera de retour à 8h. À présent, l'invité de la rédaction, Francis Kassé, reçoit le président du Parti pour l'intégration africaine. Dans cet entretien, Jacob Mamadou Koulibaly s'insurge contre le parrainage citoyen qu'impose la loi à quiconque veut être candidat à l'élection présidentielle de 2025 et soutient avoir saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour son annulation.
Jacob Mamadou Koulibaly, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Récemment, vous avez saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Pourquoi ?
La Cour, en fait, est basée à Abuja et la Côte d'Ivoire étant membre de la CEDEAO, les citoyens membres de l'espace communautaire ont le droit de saisir la Cour. Et nous, notre requête est basée sur le parrainage citoyen qui a été introduit par l'ordonnance 2020-356 du 8 avril 2020.
Vous parlez de l'instauration d'un parrainage citoyen ici en Côte d'Ivoire par rapport à la politique, c'est ça ?
Tout à fait, c'est ça.
Et ce parrainage-là consiste à faire quoi ?
Dans le nouveau code électoral que nous avons, il est stipulé que chaque candidat, pour être candidat à l'élection présidentielle, doit recueillir 1% de parrainage dans la moitié des régions et des sites de la Côte d'Ivoire. Et ce parrainage pour nous est antidémocratique parce que, un, d'abord, il amène l'électeur à dévoiler son intention de vote et deux, il empêche les partis politiques de participer au jeu électoral qui est le fondement même de la démocratie. En 2020, il y a eu des candidats, mais par manque de parrainage insuffisant, les candidatures ont été rejetées.
C'est en 2020 que le parrainage a été instauré, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Mais pourquoi c'est maintenant en 2025 que vous voulez mener un combat pour son retrait ?
Le parrainage n'a pas été accepté par tout le monde. C'est à l'issue du dialogue politique que le parrainage nous a été imposé. Et lors du dernier dialogue politique en 2021, nous avons soulevé la question du parrainage. Et l'ensemble des acteurs politiques sont convenus qu'il fallait améliorer le parrainage ou le supprimer. Cela se trouve dans le rapport final du dialogue politique. Nous sommes déjà à 9 mois des élections. Il fallait qu'on prenne le taureau par le corne pour saisir l'institution capable de régler ce problème du parrainage.
Alors, vous dites que ce parrainage vous a été imposé. Comment ?
Politique, il y a un des grands partis politiques qui a voulu mettre le parrainage pour empêcher les candidatures fantaisistes. Et cela a été adopté par le pouvoir et inscrit dans le code électoral.
Vous dites que cela a été adopté par le pouvoir, par l'exécutif ou par l'Assemblée nationale ?
Non, c'est l'ordonnance. Le décret n'est pas passé à l'Assemblée nationale. C'est une ordonnance aujourd'hui qui nous sert de code électoral. C'est pas une loi.
Donc pour vous, c'est une ordonnance du président de la République qui instaure le parrainage ?
Oui, c'est le parrainage. Oui, c'est l'ordonnance qui a amendé le code électoral en 2019.
Et pour vous, ce parrainage-là, vous n'en voulez pas ?
Non, 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 voulons pas. Le parrainage écarte la majorité des candidats. L'État dit que le parrainage est fait pour éliminer les candidats fantaisistes. Et en Côte d'Ivoire, en 2020, il y a 8 candidats qui ont réussi à payer les 50 millions, qui ont fourni tout le dossier complet, mais ont vu les candidats rejetés par manque de parrainage. Pour empêcher qu'il y ait encore une autre perturbation du processus électoral en 2025, nous souhaitons que le parrainage soit purement et simplement supprimé.
Alors donc, pour vous, si le parrainage n'est pas supprimé, n'est pas retiré, vous pensez que les élections vont être perturbées?
Tout à fait, je suis sûr. Parce que les candidatures seront rejetées de manière injustifiée. On ne sait pas sur quelle base l'État valide les parrainages. C'est un processus un peu opaque que nous dénonçons.
Récemment, à une conférence de presse, vous avez dit ceci, je vous cite, le parrainage citoyen s'est révélé comme un mécanisme discriminatoire en ce sens qu'il restreint l'égalité des chances entre les potentiels candidats. Que voulez-vous dire par là?
Vous voyez, aujourd'hui, pour recueillir le parrainage, il faut mettre en place une organisation qui nécessite beaucoup de moyens. Les partis politiques qui n'ont pas de subventions ont du mal à aller recueillir le parrainage. Donc, le parrainage écarte les partis les moins nantis. Parce qu'il faut mettre une équipe des moyens pour couvrir tout le territoire national afin de recueillir le parrainage des Ivoiriens. Nous pensons que le meilleur baromètre de la démocratie, c'est laisser le libre choix aux populations de choisir et mener les candidats selon les programmes et la projet de société que nous allons présenter.
Et vous dites aussi que le parrainage est en contradiction avec le secret du vote en obligeant les électeurs à déclarer à avance à quel candidat ils ont l'intention d'accorder leur suffrage.
Tout à fait. Aujourd'hui, l'électeur qui va parrainer un candidat, il fournit le numéro de sa carte d'électeur, sa carte d'identité, sa filiation complète, son numéro de téléphone et même sa signature. Cela expose déjà l'électeur qui prend le risque de parrainer un candidat, il est exposé. Sur dossier, ce mécanisme a amené des intimidations, des brimades, des oppressions au niveau de la population qui a parrainé.
Alors, expliquez-nous un peu ce parrainage-là. Comment ça se passe?
Le parrainage, c'est un système qui demande à chaque candidat qui va être candidat à la sortie présidentielle de pouvoir recueillir 1% de l'électorat dans la moitié des régions. En Côte d'Ivoire, nous avons 31 régions, plus la diaspora, ça fait 32 régions divisées par 2, ça fait 17 régions où on doit recueillir le parrainage. Donc comme ça, on va faire le tour des villages, des villes, des hameaux, pour approcher les populations, solliciter les candidatures, parce que le candidat qui est là, il faut le parrainer pour que ce soit candidat. Donc tout le monde sait que celui-là donne son parrainage à tel candidat. Cela expose l'électeur déjà. Donc voilà ce que nous décrions.
On doit gagner combien de voix pour ce parrainage-là?
Par exemple, si la région de la Mée, nous avons 1 million d'électeurs, il faut 1% de ces 1 million d'électeurs-là pour que vous ayez le parrainage requis dans cette région-là. Donc, en Côte d'Ivoire, on a 8 millions, 12 000 quelque chose d'électeurs, environ 400 000 candidatures pour espérer que ta candidature puisse être validée. Et les 400 000-là seront dispersés sur la moitié des régions. Mais attention, un électeur n'a le droit qu'à parrainer un seul candidat. S'il est parrainé deux candidats, le parrainage du second est annulé. Voilà la complexité du parrainage. Parce que le premier à aller déposer ses dossiers à la CEI, c'est celui-là qu'on prend en compte. Le second voit son parrainage automatiquement annulé.
Alors, la Cour de justice de la CEDEAO est basée à Abuja. Comment est-ce que vous avez fait pour la saisir au fin d'annuler le parrainage?
Bon, il y a plusieurs mécanismes pour saisir la Cour. Hein. Soit il faut approcher d'un avocat qui sera à Abuja pour saisir la Cour physiquement, ou bien il y a la voie électronique par laquelle on peut saisir la Cour également avec une requête. Donc nous avons saisi la Cour à travers cette voie-là.
La voie électronique?
Tout à fait.
Et qu'est-ce que vous avez reçu comme réponse?
La Cour a enregistré notre requête et la Cour a communiqué la requête à l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire avait 30 jours pour produire un mémoire de défense qui déposera à la Cour. Et ces 30 jours couraient depuis le 7 janvier, ça prend fin le 7 février.
Jacob Mamadou Koulibaly, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Voilà, Francis Kassi recevait dans le cadre de l'invité de la rédaction le président du Parti pour l'intégration africaine, Jacob Mamadou Koulibaly, entretien qui met un terme à cette édition, le rappel de l'essentiel. La révision de la liste électorale pour 2025 est-elle possible? Le coordonnateur de la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire s'inquiète sur la question du parrainage qui n'est pas encore tranché. Puis dans l'actualité internationale, est de la République démocratique du Congo, les chefs de la diplomatie se rencontrent pour le sommet de l'EAC et la SADC. L'objectif de cette première réunion est de permettre aux deux organisations régionales d'accorder leur violon pour rétablir et consolider la paix dans le pays. Fin de cette édition, l'actualité sera de retour à 8h.
Baby, 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 baby